écoutez Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 mai 2026. Pour ceux et celles qui ont pu se reposer hier, j'espère que vous avez pu profiter du soleil. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative, sur Radio Campus Amiens, bien sûr. Votre émission préférée est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur notre site radiocampusamiens.fr. Pour animer cette émission, je ne suis pas toute seule, je suis avec Lina aujourd'hui. Salut!
Salut!
Côté musique, la rédaction vous propose deux titres, Wake in Your Light de Nation of Language et Alaska de Maggie Rogers, en dernière partie d'émission. Avant d'écouter tout ça, on commence par l'interview du jour. Lina, je te laisse nous présenter ton invité.
Aujourd'hui, je suis avec Lisa, directrice de la bouquinerie du Sarthe à Amiens. Bonjour Lisa!
Bonjour!
Et on va parler de la bouquinerie qui vient de fêter ses 3 ans aujourd'hui. D'abord, comment est née l'idée de créer la bouquinerie ?
Alors, la bouquinerie du Sarthe provient de Villeneuve-d'Ascq, dans le quartier du Sarthe. Il existe depuis 10 ans, aujourd'hui aussi. et en rencontrant le fondateur de cette bouquinerie du Sarthe à Villeneuve-d'Ascq, ça m'a donné envie de lancer ce concept-là aussi à Amiens.
Oui. Que représentent ces 3 ans pour vous ?
Ah là là, les 3 ans, c'est beaucoup, beaucoup de choses. J'y ai réfléchi un petit peu hier soir. C'est énormément de rencontres, de liens, d'apprentissage, de collaboration, de partenaires, un écosystème local foisonnant, beaucoup d'aide, de soutien. Voilà, une expérience merveilleuse.
Quel a été le plus grand défi depuis l'ouverture ?
Le plus grand défi, c'est de trouver des emplois, des entreprises qui correspondent aux besoins et aux envies de l'équipe que nous accompagnons. En fait, les salariés de la bouquinerie sont en transition professionnelle. Donc, c'est des personnes qui sont logées en centre d'hébergement lorsqu'on les recrute. Ils travaillent pendant plus ou moins 1 an à la bouquinerie. Et puis, en fait, l'objectif pour eux, c'est d'aller travailler ailleurs, de trouver une entreprise qui corresponde à leur envie, à leur projet professionnel. Et ça, c'est, je dirais, le plus grand défi. C'est notre mission principale, donc inévitablement, c'est le plus grand.
Pourquoi est-il important de célébrer cet anniversaire avec le public ?
Ah, bah parce qu'on fait rien tout seul. On fait absolument rien tout seul. La bouquinerie, c'est une aventure collective, humaine, solidaire, généreuse, incroyable. En fait, rien n'est possible sans les Amiennois. C'est une aventure qui est portée par les Amiennois, pour les Amiennois. Et moi, j'ai la chance d'être témoin de ça tous les jours. Donc, c'est inévitable pour moi de vouloir le partager avec tout le monde. Tout le monde contribue à cette aventure incroyable. De près ou de loin, déjà en amenant un livre, en venant en acheter, c'est incroyable, c'est vraiment, ça rend service, c'est un cercle vertueux incroyable, j'en suis toujours aussi émerveillée. Quelqu'un a besoin de faire du tri chez lui, des ménages, ou a besoin de vider une maison, ils sont contents de nous trouver, ils sont contents que leur livre arrive sur nos étagères. Et une belle deuxième vie, c'est quand même ce qu'on souhaite pour les livres. Et ça permet à d'autres personnes, d'autres Amiennois, d'acheter des livres à petit prix, tout en créant de l'emploi solidaire à Amiens, en donnant un coup de pouce à des personnes qui ont juste besoin de retrouver une activité, de reprendre un rythme, de remettre le pied à l'étrier, comme on dit dans le monde de l'insertion.
Quel est votre plus beau souvenir depuis le lancement ?
Ah, je pensais au papy de plus de 90 ans, qui était un de nos premiers donateurs le premier été, et qui mettait une semaine à remplir son tout petit coffre de voiture avec des livres soigneusement rangés dans les petites boîtes. Et donc, il est venu toutes les semaines pendant tout l'été, pendant 2 mois. Une fois par semaine, parce que ça lui prenait du temps à faire ce tri, à mettre ça dans son coffre et à nous les ramener. Et lorsqu'il venait nous amener ça à la bouquinerie, comme avec n'importe quel client ou quel donateur ou n'importe qui rentre à la bouquinerie, on offre une boisson. Et donc, du coup, le temps qu'il boit sa boisson, qu'il reprenne ses esprits, ses forces, eh bien, du coup, il y a une autre personne qui est là, qui regarde justement ce qu'il vient de déposer. Et du coup, ils sont en train d'échanger et je crois qu'ils sont devenus amis maintenant. C'était, voilà, je pense qu'ils avaient 50 ans d'écart. Mais les livres qu'ils ramenaient intéressaient énormément cette personne qui était là à ce moment-là. Donc ça, c'est un magnifique souvenir. Je vais être obligée, il y en a des millions. En fait, il y en a tout autant de dons, mais je vais me permettre aussi de... C'était récemment, parce que là, c'était un souvenir ancien, mais juste la semaine dernière encore, j'étais avec un salarié. On est parti rencontrer un hôtel pour décrocher un stage en réception. C'était un environnement qui lui plaît, il parle couramment anglais. Du coup, on s'était dit, waouh, ça pourrait être chouette pour lui. Mais voilà, c'était très stressant. On sentait que c'était pas l'exercice le plus facile de passer ce petit entretien. Et il a géré à merveille. Il a décroché ce stage. Et en se retrouvant tous les deux, en rentrant dans la voiture, il avait, je voyais qu'il était ému de se dire qu'il avait comme réussi à décrocher ce stage. Et voilà. Aujourd'hui encore, j'en suis émue parce que c'est vraiment la mission de la bouquinerie et c'est hyper chouette de les voir évoluer comme ça.
Pourquoi avoir choisi de mêler culture, solidarité et seconde main ?
Alors, bon, la mission, l'objectif principal, c'était quand même de permettre à des personnes logées en centre d'hébergement de pouvoir retrouver un travail et un logement durable. Donc ça, c'était la première idée. Et puis... C'était le fondateur, cette idée ne vient pas de moi, je l'ai reprise ici à Amiens, mais c'était de se dire, ok, comment tout le monde peut contribuer ? Parce qu'en fait, on n'a pas tous le temps, l'envie, la capacité de faire des maraudes, mais tout le monde a envie de contribuer. Donc, je pense qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'on a tous chez nous et, voilà, et qui peut être passé de main en main ? Et donc, c'était les livres en premier lieu. Donc voilà, c'était pas la grande mission, c'était pas la culture, c'était un échange, un partage, un don en fait.
Quel type de don recevez-vous le plus ?
Ah là là, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons. Pour vous donner une idée, en 3 ans, parce que j'ai fait mon petit devoir pour ces 3 ans, nous avons collecté plus de 1 260 000 livres à Amiens. C'est gigantesque. Donc déjà, c'est une quantité incroyable. 200 000 vêtements, 50 000 CD-DVD, et puis effectivement, tout un tas d'objets aussi variés qu'insolites. Et donc, on a tout type de dons. On en a beaucoup. On a la chance d'en avoir beaucoup. Donc merci à tous les Amiennois, à tous les donateurs, parce que c'est incroyable, cette générosité. Et on a parfois des... On a souvent, régulièrement, des dons vraiment pépites. On a la vaisselle fine, des colliers de marque, des vêtements d'une grande valeur. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, je dirais tout. Des fois, on est obligé de... Je dirais les grands objets, même si ma collègue aimerait bien pousser les murs et agrandir, recevoir des canapés, des belles tables, etc. On se limite un peu sur le côté brocante, en fait. C'est principalement livre, vêtements, CD-DVD, vinyle et des petits bibelots, je dirais.
Y a-t-il des objets insolites qui vous ont marqué ?
Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... Oui, on peut avoir un pommeau de douche doré, brillant, comme une maison Playmobil, toute neuve, enfin vraiment en super bon état. On a vraiment des dons pépites, on a la chance.
Pourquoi est-il important aujourd'hui de favoriser le réemploi ?
Eh bien, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup produit. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses déjà. Il me semble que si on arrêtait de produire des vêtements aujourd'hui même, on en aurait pour des millions d'années à venir. Donc, le réemploi, en plus de ça, comme je le disais auparavant, c'est un cercle vertueux incroyable, en fait. Ça permet, on a tous, je pense, des vêtements en trop, des livres qui dorment dans nos étagères. Donc, autant les remettre en circulation. Le réemploi, c'est ce qui me paraît la solution aujourd'hui à un monde un peu plus équitable. Oui.
Comment décrivez-vous l'esprit de la bouquinerie ?
Ah, l'esprit de la bouquinerie, c'est un lieu chaleureux, vivant, accueillant et accessible à tous. La porte est ouverte à tout le monde. Pour nous, c'est important que tout le monde se sente bien. Aussi bien les personnes de passage, nos donateurs réguliers, les personnes qui viennent juste bouquiner ou boire un café. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit ouvert à tous et à toutes.
Qu'est-ce que les visiteurs aiment particulièrement ?
Ils sont tous contents quand même qu'on leur propose des boissons. Et puis, ils aiment le cadre, ils aiment l'équipe qui est accueillante. Je pense que c'est l'idée du lieu de vie. Voilà, on voit, on accueille les personnes. Ouais, chacun.
Quels sont vos projets pour les prochaines années ?
Peut-être d'accompagner encore plus de personnes. On est aujourd'hui une équipe de 11 personnes. Et donc, du coup, si on s'agrandit, on peut recruter davantage de personnes. L'équipe peut s'agrandir. Est-ce qu'on développe une autre activité ? En fait, tout est ouvert. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, on va continuer de développer. Ça fonctionne. On a une équipe, j'ai une bénôme d'enfer qui s'appelle Céline, qui, elle, encadre l'équipe au quotidien dans le magasin, qui les fait monter en compétences sur les métiers de la vente. Et donc, continuer à avoir un impact plus important pour accompagner encore plus de personnes, loger en centre d'hébergement, mais aussi beaucoup de stagiaires, puisqu'on a accompagné plus de 60 stagiaires, des jeunes de la mission locale, d'études, des centres d'hébergement, etc. Donc, en fait, c'est un lieu qui peut avoir un impact positif pour des jeunes et des moins jeunes.
Pouvez-vous nous parler des personnes que vous accompagnez ?
Oui, c'est des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver confiance en eux, surtout. Reprendre un rythme, retrouver un lien social. Donc c'est pour ça que cette équipe qui a pu s'agrandir, parce qu'au départ d'être deux, c'est quand même pas, en termes de lien social, c'est un peu limité. Donc je suis très contente qu'on soit aujourd'hui 11, voire 13 en fait, parce qu'on a toujours deux stagiaires en fait, en continu. Donc c'est une équipe qui est courageuse, qui a envie vraiment de retrouver un logement autonome et qui a envie d'apprendre, de s'engager pour qu'ils puissent... aller vers un emploi, une situation qui leur convienne durablement. Ça, c'est vraiment, on y tient. Donc, on essaye de proposer un maximum de stages pour leur permettre de valider leur envie, leur projet professionnel.
Que peut-on découvrir en venant à la bouquinerie pour la première fois ?
Les sourires de cette fameuse équipe. tous autant qu'ils sont. C'est leur sourire, c'est leur envie, c'est leur gentillesse, c'est leur accueil, leur envie.
Que deviennent les livres et les vêtements donnés ?
On les trie déjà, parce que parfois, lorsqu'on a un don, par exemple, très important, lorsqu'une maison est vidée, on peut recevoir un camion de déménagement entier rempli de livres. Et puis, dans ce cas-là, on va trier l'état. Pour les livres, ce qui est en mauvais état, ce qui est vraiment trop abîmé pour être mis en rayon, parce qu'on veut que notre bouquinerie donne envie, on veut que les gens aient envie d'acheter un livre, même à 2 euros, même si c'est la seconde main, on a envie que ce soit, que ça donne envie, que ça soit en bon état. Donc forcément, les livres qui seront abîmés, ils seront recyclés. Ou, si on les a en double, par exemple, on les redonne à notre site internet. L'activité, la bouquinerie des sœurs a également une activité e-commerce, donc on revend sur librairiesolidaires.com et donc du coup ça nous permet de toucher la France entière lorsqu'on a des doublons ou des catégories vraiment trop précises, l'art martial au 14e siècle, c'est un peu niche, donc on va plutôt le mettre dans des caisses qu'on va pouvoir amener au niveau du site internet. On essaie d'optimiser un maximum les chances de pouvoir revendre le livre. On organise des grandes ventes, de grands déstockages. Donc, en général, une fois tous les 2 mois, on a des grandes ventes de livres à 1 euro. Et donc là, ça plaît énormément. Donc, il y a plus de 10 000 livres à ce moment-là qui peuvent partir. Et on les redonne aussi aux centres d'hébergement, aux structures d'insertion. On les invite à venir justement choisir leurs livres gratuitement. Pour les vêtements, pareil, on les trie évidemment, on veut que ce soit en bon état. Et donc, tout ce qui ne va pas être vendu, parce qu'on est un magasin, donc on fait une rotation continue de nos collections. En fait, tous les jours, il y a des nouveautés. Donc, ce qui n'a pas été vendu, on va dire, dans les 3-4 jours, on les redonne aux robines d'ébène. Ce sont déjà des vêtements qui ont été entièrement triés, vérifiés, en bon état. Et ça permet aux robines d'ébène d'aller plus vite dans leur tri à elles et de présenter leur friperie à elles. Donc on essaye comme ça de trouver un maximum de solutions upcycling pour tout ce qui nous est donné. Inévitablement, il y a beaucoup de choses aussi qui ne vont pas pouvoir être revalorisées. Je pense au CD-DVD, pour l'instant, il n'y a pas de filière pour revaloriser ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du DIB. Mais on travaille pour toute cette partie de collecte de livres ou de recyclage. En général, on travaille, au sens large du terme, on travaille avec Elise. C'est une entreprise adaptée qui fait la revalorisation des déchets et du coup qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi de l'insertion, mais pour des personnes avec une reconnaissance de travailleur handicapé.
Quel message aimeriez-vous transmettre aux habitants d'Amiens ?
Au-delà d'un message, je dirais un grand merci, parce que le fait qu'on ait déjà qu'on puisse fêter nos 3 ans aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux. Donc j'ai envie de dire merci pour votre confiance, merci pour tous vos dons, merci de venir à la bouquinerie, merci pour votre soutien, pour vos compliments, pour votre gentillesse auprès de l'équipe. Un très grand merci du fond du cœur.
Merci d'avoir pris le temps à répondre à mes questions.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Something so bright and blessed that I'm
venez d'écouter Weak in Your Light, The Nation of Language. Pour cette deuxième partie d'émission, parlons d'une politique rurale que certains et certaines croyaient efficace et qui, selon une étude, nous coûte surtout de l'argent et de la biodiversité. Depuis plusieurs années, l'État soutient et régule l'élimination massive d'animaux dites « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ». Renards, corbeaux, fouines, ragondins et autres. Vous savez, les nuisibles de nos campagnes, et vous ne pouvez pas me voir, mais je mets des guillemets et je le mettrai à chaque fois que je prononcerai ce mot. Revenons à nos martes, renards et oiseaux. L'idée est simple, je dirais même simpliste, tuer pour protéger les cultures, les élevages et éviter les pertes économiques. Sauf que, d'après une étude du Muséum national d'histoire naturelle publiée dans Biological Conservation, cette logique s'est révélée inefficace. Les chercheurs et chercheuses ont passé au crible 7 années de données départementales, déclarations de dégâts et nombre d'animaux abattus, et le bilan est sans appel. Augmenter l'effort de destruction ne réduit pas les dégâts. Pire, arrêter ces destructions n'entraîne pas non plus une hausse des pertes. Chez les oiseaux, les effectifs reproducteurs au printemps ne varient même pas en fonction de l'intensité de la chasse ou du piégeage. Bref, ces régulations ne régulent rien. Sur le plan économique, le constat est tout aussi frappant. L'étude propose une estimation du coût annuel des destructions, entre 103 et 123 millions d'euros. Le montant des dégâts déclarés, lui, oscille seulement entre 8 et 23 millions d'euros. Autrement dit, on dépense jusqu'à 8 fois plus pour détruire des animaux que ce qu'on perd réellement en dommages matériels. Ce n'est donc pas seulement inefficace, c'est un gâchis financier. Et puis, il y a le volet écologique et fonctionnel. Ces espèces rendent des services au paysage et à l'agriculture. Près des rongeurs, dispersion des graines, équilibre des écosystèmes. Les éliminer massivement, c'est saper ces bénéfices, souvent invisibles mais réels. Et pour ceux, un gain supposé qui visiblement n'existe même pas. Ce n'est pas la première alerte. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable soulignait déjà en décembre 2024 la nécessité de revoir cette politique publique. La nouvelle étude renforce cet appel, il est temps de repenser nos méthodes. La suite, les auteurs proposent de développer et de financer des stratégies non létales et ciblées qui ont déjà montré leur efficacité ailleurs. Enrobage répulsif pour les semences, dispositifs d'effarouchement adaptés, protection physique des cultures, gestion des habitats aux abords des parcelles. Ces solutions sont souvent moins coûteuses et préservent la biodiversité. La question politique est claire. Veut-on continuer à payer des millions chaque année pour un effet nul au prix de la biodiversité, ou bien investir dans des méthodes intelligentes fondées sur les preuves qui permettent une cohabitation apaisée entre activités humaines et faune sauvage? En attendant les décisions du pouvoir public, retenez ceci. Massacrer massivement n'est ni efficace ni rentable, et surtout, ne régule rien du tout. Maintenant, vous savez quoi répondre à votre tonton chasseur, et je salue d'ailleurs le mien au passage. Sur cette note un petit peu acide, c'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich, mais restez à l'écoute de Radio Campus Amiens, puisque juste après la musique, on vous propose le deuxième épisode de la semaine de Saint-Leu. Pour terminer cette première partie, je vous laisse donc avec Alaska de Maggie Rogers. On se retrouve juste après cette musique.
That took my breath away. Moving slowly through westward water over glacial plains in a walked off view. In a walked off an old me. Oh, me, oh my. You and I.
good time.